Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Comme toutes les semaines, avec La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, nous vous proposons la une de ce journal qui est en kiosque tous les vendredis avec Françoise Verna. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour.
Quels sont les titres cette semaine de La Marseillaise ?
Alors, à la une de La Marseillaise Hebdo d'Occitanie de ce vendredi 3 juin, nous avons, nous consacrons notre dossier au tourisme et à la prochaine saison estivale, bon, qui commence hein, puisque nous sommes début juin, mais nous avons soulevé un gros point noir, même si tous les voyants sont au vert,
oui.
C'est le manque de saisonniers. Donc ça, c'est l'objet de notre dossier. Ensuite, nous sommes allés à la rencontre des salariés du secteur médico-social qui ont observé une grève le 31 mai et le 1er juin. Mmh. Il faut savoir que depuis 2 ans, ces professionnels se mobilisent pour leur salaire, mais aussi leurs conditions de travail et donc des conditions d'accueil des publics. Donc ça nous semblait important de relater leur situation. Sur la question sociale est aussi au cœur des préoccupations des enseignants,
oui.
Qui font face au niveau national, mais aussi évidemment dans tous les départements et donc dans l'Hérault, à une crise du recrutement, comme nous l'explique dans nos colonnes Stéphane Audebeau, qui est co-secrétaire académique du SNES FSU de Montpellier.
Mmh.
C'est le syndicat majoritaire chez les enseignants du second degré. Donc ensuite, nous avons dans notre rubrique santé un invité qui est le professeur Jacques Rennes. Donc c'est le chef des maladies tropicales au CHU de Montpellier.
Mmh.
Et il a répondu à nos questions sur la variole du singe qui inquiète. Et il se veut rassurant sur sa propagation et sa gravité. Sur le plan culturel, nous proposons deux belles sorties. Alors évidemment, je fais un petit pas de côté. On va du côté de Nîmes parce qu'on célèbre cette année les 70 ans de la Feria de Pentecôte. Alors au-delà des corridas, c'est la ville complète qui se transforme en un lieu de fête avec une ambiance qui est unique. Donc que l'on apprécie ou pas la culture taurine, c'est un week-end qui mérite le détour.
Mmh.
Et dans un tout autre registre, la commune de Claret, la petite commune de Claret qui se situe au nord de Montpellier, organise son premier salon des livres et des arts au pied du Pic Saint-Loup, dans un grand parc arboré. Donc c'est l'occasion de rencontrer près de 80 auteurs avec des artistes et de passer une journée, ça se déroule ce samedi, une journée agréable en plein air. Voilà l'essentiel de notre une de ce 3 juin.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
À la une de La Marseillaise, l'hebdo d'Occitanie du vendredi 3 juin, un dossier sur le tourisme et la prochaine saison estivale qui commence. Et comme vous le disiez, si les prévisions sont au beau fixe, il y a un gros point noir. Lequel, Françoise ?
Alors, le gros point noir que nous soulevons, c'est le manque de saisonniers.
Mmh.
Alors, on estime, les professionnels estiment entre 5000 et 7000 postes de saisonniers vacants dans l'Hérault.
Ah
alors,
oui, c'est énorme.
Il faut savoir qu'au niveau national, ça chiffre à 240 000 postes vacants.
D'accord.
Alors, il s'agit des postes de serveurs, de cuisiniers, et dans les hôtels, ce qu'on nomme les valets de chambre ou les femmes de chambre.
Mm-hmm.
Hein. Donc, on a interrogé notamment Chaouki As-Fouri, qui préside le groupement national des indépendants, le GNI,
oui.
Dans l'Hérault. Alors, il explique notamment que nombre de saisonniers se sont réorientés pendant la crise du Covid, et bien évidemment avec des métiers qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes horaires et certainement pas les mêmes salaires que ce qu'ils avaient pu connaître précédemment. Oui. Mais le vrai problème, bon, il y a la question de la rémunération, c'est la question aussi du logement. Parce que quand on est saisonnier, il faut se loger à proximité de son lieu de travail. Or, en pleine saison touristique, les loyers sont extrêmement chers. Mmh. Et même si, comme il le dit Chaouki Asfouri, même si il y a eu des augmentations de l'ordre de 20% au-dessus du SMIG, cela reste extrêmement insuffisant pour se loger sur le littoral notamment.
Et puis on partait de loin aussi sur les salaires, hein, faut bien le dire.
Oui, tout à fait. Et donc, on a aussi interrogé, donné la parole aux représentants des salariés, notamment Jean-Hubert Lacroix, qui est donc à la CGT dans le département du Gard, mais c'est les mêmes problématiques que dans l'Hérault, hein. Il faut savoir qu'un emploi saisonnier, c'est un contrat en CDD qui est appauvri. Ça veut dire que les patrons, il faut savoir, sont exonérés des cotisations sociales et du paiement de l'indemnité de précarité de 10% au terme du contrat. Donc, la CGT va à la rencontre des saisonniers pour leur rappeler leurs droits, mais il réclame aussi un vrai statut et une vraie protection, parce qu'il met aussi, lui, l'accent, comme le représentant des entreprises donc de la restauration et de l'hôtellerie, sur la question du logement. Il faut savoir qu'un studio, c'est 500 euros la semaine en période estivale, et souvent, les saisonniers vivent à 4, 5, voire 6 dans des petits studios pour pouvoir et s'acquitter du loyer et faire leur travail. Donc, il y a énormément d'obstacles, et c'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est qu'ils veulent travailler dans des bonnes conditions. C'est pour ça qu'il nous semblait important de rappeler ces chiffres et les conditions de travail et aussi les pistes qui sont avancées et par les syndicats et aussi par les patrons, parce qu'ils reconnaissent quand même qu'il y avait, on va dire, un traitement un peu méprisant de ces saisonniers. Maintenant,
bon, c'est
en
déjà
a
pas
plus,
mal de le reconnaître.
Voilà, ils le reconnaissent. Ils demandent évidemment au pouvoir public aussi d'agir, mais la question du logement et du salaire est vraiment, à notre avis, hein, les deux points à résoudre pour que ces métiers soient de nouveau attractifs.
D'accord. Et ce dossier, bien sûr, à retrouver à la une de la Marseillaise, qui paraîtra en kiosque ce vendredi. Dans un autre sujet, mais qui peut rejoindre un peu celui-là, c'est vous êtes allé à la rencontre des salariés du médico-social, un peu en crise, beaucoup en crise même.
Oui, alors c'est une crise qui est liée aussi aux questions salariales et aux conditions de travail. Il faut savoir que les salariés du médico-social, c'est énormément de métiers, très différents.
Oui.
Ça peut être des éducateurs, des personnes qui font la logistique, qui font l'entretien, le personnel administratif. Ils agissent dans les foyers ou dans les centres, par exemple, pour les adultes ou les enfants en situation de handicap.
Oui.
Donc, c'est vraiment des métiers, ce qu'on appelle les métiers du lien. Alors, nous sommes allés à leur rencontre à Montpellier et à Nîmes. Ils ont dans le cadre d'un mouvement de grève nationale, se sont mobilisés donc le 31 mai et le 1er juin. On relate ces mobilisations, on leur donne la parole parce que bon, ils ont été exclus de la prime Ségur. Hein, vous savez, cette prime, ils ont été exclus pour obtenir ces 183 euros net par mois. Ils bataillent. Il y a soit des collectivités qui doivent le payer, mais qui ont des ressources qui sont quand même tendues et qui, comme le département de l'Hérault a déjà annoncé, qui ne pourraient pas verser cette somme, ce qui est quand même problématique.
Oui.
Et puis, le gouvernement conditionne l'obtention de ces 183 euros à une fusion des conventions collectives qui régissent le secteur, puisque comme il y a énormément de métiers, il y a beaucoup de conventions collectives.
D'accord.
En attendant, la situation de ces personnes est assez dramatique. On donne la parole à Lucas Serve, qui est salarié du SAMU social à Montpellier.
Oui.
Qui est membre aussi d'un collectif qui s'appelle CASOS. Et il explique que quand on sort d'un bac plus 3 et qu'on a 1400 euros par mois pour finir son poste à minuit, un jour sur deux, faire un week-end sur trois, ça paraît, il dit, assez délirant.
Oui, même si ce sont
de rémunération.
Oui, absolument. Même si ce sont des gens fantastiques qui aiment leur métier, au bout d'un moment, on ne peut pas travailler en perdant de l'argent. Je donne l'exemple, par exemple, des éducateurs qui payent le BAFA et qui coûtent très cher et qui se retrouvent à partir 3 semaines. Alors, pour la vie de famille et tout ça, on dit que c'est des métiers fantastiques, mais au bout d'un moment, il faut trouver un juste milieu.
Oui. qu'il ne faut pas, justement, il faut les considérer. La revendication salariale, elle était de 400 euros net pour l'ensemble des salariés du secteur. Mmh. Ça veut dire que c'est juste un calcul qui est le fruit du manque à gagner depuis les 20 dernières années.
D'accord.
Donc voilà, donc il faut leur donner la parole. Ça fait 2 ans qu'ils se mobilisent très régulièrement et ils crient un peu dans le désert. Dans la mesure où il y a tellement de conventions collectives, tellement de difficultés même à faire des actions unitaires, quand ils arrivent à les monter et à se faire entendre, c'est important de les faire connaître. C'est les premiers de corvée quand même. Hein. On parle de ces professions qui sont indispensables.
C'est ça, c'est ce que j'allais rajouter. On a besoin de ces professions et qui sont pourtant très mal rémunérées.
Et très mal considérées, tout à fait.
On reste dans des questions aussi de salaire et de social avec les enseignants.
Ben oui, des enseignants, parce qu'il y a vraiment la sonnette d'alarme qui est vraiment tirée, puisque pour la première fois depuis longtemps, les postes au concours qui ont été ouverts ne seront pas pourvus, puisqu'il y a moins d'admissibles que de postes ouverts. Ça peut paraître fou, mais c'est la vérité. Par exemple, pour le CAPES, il y a 816 candidats admissibles, 2 fois moins qu'en 2021, pour 1035 postes en mathématiques, par exemple. Hein.
D'accord.
Donc voilà, je le répète, c'est donc 816 candidats admissibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore passé l'oral, pour un peu plus de 1000 postes. Et par exemple, en allemand, 83 admissibles pour 215 postes. Un autre exemple, en physique-chimie, 333 admissibles pour 424 postes. Mmh. Alors, donc, c'est une liste qui est longue. Le ministère de l'Éducation, lui, il dit que c'est parce qu'il y a une réforme des concours qu'il y a moins de personnes admissibles. Mais Stéphane Audebeau, qui sait de quoi il parle, à notre avis, qui est co-secrétaire académique du SNES FSU de Montpellier, dit que ce n'est pas vrai, car dans certaines disciplines, comme les SVT ou l'histoire-géo, on n'arrive pas à cette situation-là. En fait, l'explication, c'est qu'il y a une crise majeure du recrutement dans certaines disciplines.
D'accord.
Et des disciplines qui ne sont pas mineures. Hein. On parle des mathématiques, on parle de la physique-chimie. Et cet enseignant qui travaille à 7 dit que bon, ils alertent depuis longtemps. Donc évidemment, les solutions, c'est évidemment la revalorisation du métier, revalorisation avec de la considération, dit-il, et une revalorisation salariale, les enseignants font partie en France des plus mal payés d'Europe. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les chiffres que nous avance Stéphane Audebeau, un jeune enseignant débute à 1,14 fois le SMIG, donc c'est pas beaucoup, et ils étaient à 1,8 fois le SMIG à la fin des années 1980, et même au début des années 80, le salaire de départ était à plus de 2 fois le SMIG, donc il y a eu une perte de salaire pour des métiers qui réclament de l'engagement, des années d'études, et donc est-ce qu'il y aura suffisamment d'enseignants à la rentrée devant les enfants et les adolescents, c'est pas sûr, hein, ils crient pas au loup, hein, ils alertent. Hein,
c'est très grave parce que là on part sur un problème structurel en fait.
Un problème structurel qui fait que les jeunes en études qui se tournent vers l'enseignement, il y en a moins dans des matières qui sont des, toutes les matières sont importantes, mais il y a des matières vraiment, on sait que la France a un problème avec l'enseignement des mathématiques.
Oui.
Bon, il va manquer des enseignants, notamment au lycée. puisque le projet, c'est justement de remettre enfin les mathématiques dans le bac général et dans le tronc commun, ce qui avait été supprimé par la réforme
Blanquer,
voilà, et qui était quelque chose quand même dommageable pour le niveau en mathématiques, parce qu'il y a des incidences aussi après au niveau de la recherche et dans beaucoup de métiers où on a besoin, sans être mathématicien, mais de maîtriser cette matière très importante.
Et puis les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Donc,
exactement.
Il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait.
Allez, on part dans un sujet toujours un peu très préoccupant, qui est la varole du singe. Ça fait peur tout le monde après deux ans de pandémie.
On a le terme déjà de variole du singe qui fait, c'est un terme qui est assez anxiogène.
Absolument.
Justement, donc nous avons eu l'idée d'aller demander à un spécialiste, quelqu'un qui peut nous en parler correctement. C'est Jacques Reynès qui est le chef de service infectiologie et maladies tropicales du CHU de Montpellier. Il se veut rassurant. Mmh. D'abord, il explique exactement l'origine de cette maladie, son point de départ, la transmission humaine.
Oui.
Donc, il faut savoir que c'est une maladie quand même qui est, entre guillemets, pas mortelle. Mmh. Voilà. Il y a très peu de cas encore recensés à l'heure où nous avons écrit. Là, je parle comme ça parce que nous avons déjà fait son interview. Il y avait 17 cas déjà recensés en France. Il y en avait seulement 2 en Occitanie.
D'accord.
Il dit que ce n'est pas une fièvre hémorragique comme Ebola. Les taux de mortalité, c'est de 1 à 3 % mais alors vraiment par exemple sur le continent africain, donc c'est pas, ramené à une population européenne, ce n'est pas du tout la même chose que l'épidémie du Covid.
Hein. D'accord. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est vacciné, enfin. Il y a une génération, les plus de 45 ans, à partir de 45 ans, on a tous été vaccinés contre la variole.
Ah bon ?
C'est sur les populations jeunes où il n'y a pas eu ce vaccin parce qu'elle a été éradiquée. Donc c'est peut-être aussi une piste. Donc il y a une détection de la maladie relativement simple.
Mm-hmm.
Donc il faut certainement vacciner. Il faut aussi ne pas avoir peur si on est atteint par cette maladie, parce que dans les 14 jours, on n'est plus malade. Hein.
D'accord.
Donc c'est pas agréable, mais c'est très minoritaire. Le diagnostic est simple et on a sur les 200 premiers cas, un seul décès à déplorer. 200 D'accord. premiers cas en Europe. Donc il faut évidemment ne pas le prendre à la légère, mais cette interview permet d'avoir des éléments de compréhension de la nature de ce virus.
Oui.
Et toutes les explications sont données dans nos colonnes par le professeur Reynès. Et nous l'en remercions.
Allez, on change de sujet beaucoup plus léger, même si derrière ça, il y a un petit sujet de fond qui est la tauromachie.
Oui.
Mais bon, on va le mettre de côté.
Oui,
c'est
oui.
la 70e édition de la Feria de Pentecôte de
oui.
Nîmes. Sortez vos baskets parce que alors là, il ne faut pas sortir en talons. Là.
Non. Oui, en fait, on a fait un petit zoom sur cette feria parce que bon, déjà, il y a un chiffre rond, c'est les 70 ans. C'est un événement où qui draine énormément de monde. Bon, au-delà même des corridas avec les aficionados, on peut aller à Nîmes sans voir une seule corrida et passer un très bon moment. Il peut y avoir un vrai débat de fond et on pourrait le faire, mais ça réclamerait une émission à part entière.
Absolument, oui.
Voilà.
Et puis c'est souvent des débats stériles en plus, parce qu'il y a les pour et les contre et chacun trouve des arguments et on n'arrivera pas à se convaincre.
On a souvent écrit très régulièrement parce qu'on est quand même plus dans le Gard que dans l'Hérault, dans une culture taurine très forte. Il n'y a pas que les corridas, il y a aussi les courses camarguaises.
Absolument.
Hein, il n'y a pas de mise à mort. Mais c'est un week-end, si on a envie de faire un saut à Nîmes en laissant la voiture un peu loin du centre, parce que ça va être inaccessible en voiture, mais il y a beaucoup d'animation et ça peut être un moment sympathique. Voilà.
En tout cas, on vous le conseille. Allez, on reste dans la culture avec la première édition du Salon des Livres et des Arts organisé le samedi 4 juin par le village de Claret. Très beau village, au passage.
Oui, voilà, donc la commune de Claret, c'est la première année, elle se lance dans un Salon des Livres et des Arts dans le parc du village. Ouais. Donc c'est un site qui est arboré, alors même s'il y a du soleil, on sera abrité du coup de soleil. Donc et on pourra déambuler pour rencontrer des auteurs locaux, oui. Pour avoir aussi des artistes qui vont lire des textes. Alors je voudrais faire un petit clin d'œil à notre chroniqueur Thierry Arquex, qui écrit toutes les semaines une chronique patrimoine historique dans l'hebdo La Marseillaise. Il préside l'université de Vacquières, mmh. Et c'est lui qui a eu l'idée, en discutant avec la responsable de la bibliothèque du village, d'organiser avec le village cette manifestation. C'est assez remarquable de voir que l'importance du service public comme la bibliothèque du village, ça permet d'avoir accès à des livres de façon gratuite. Et donc c'est grâce à la bibliothèque du village que samedi il y aura 80 auteurs, des comédiens qui vont un lieu où on pourra se restaurer aussi et donc passer vraiment un moment de partage culturel très convivial et tout le monde est bienvenu pour participer à cette première édition et on espère qu'il y en aura une deuxième.
Bon, en tout cas, on ne peut que conseiller à nos auditeurs de se diriger vers Claret le samedi 4 juin et puis de bifurquer vers Nîmes une fois qu'ils ont fini.
Par exemple,
à Claret ou dans le sens inverse. En tout cas, tous ces sujets sont à retrouver en kiosque à partir de ce vendredi. Et puis nous, Françoise Vernet, on se retrouve évidemment à partir de la semaine prochaine.
Oui, très volontiers Bruno, merci beaucoup.
À la semaine prochaine Françoise, merci.
À la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.